très heureux.
Il a fait la même avec moi hier, je te rassure.
Dans cette émission.
Ouais, finale de Nadal.
J'ai l'impression que Julien et Cyril, il y aura un axe aujourd'hui.
Ouais, d'ailleurs. Mais j'ai vu sur les avis. Ouais.
Les Bleus risquent-ils le désamour du public? On débute ce débat, Fred Weiss.
Oui, non, j'étais surpris, ça m'a un peu retourné le fait que Cyril arrive en retard comme ça. Moi, je pensais que c'était quelqu'un qui était hyper ponctuel, ça me surprend. Bon, donc il faut que je me remette un petit peu dans l'émission. Non, concrètement, le foot, on aime ça, on adore ça. Évidemment qu'il y a des moments où c'est un peu plus difficile. Ce moment est un peu difficile parce que on critique beaucoup le sélectionneur, parce que tout le monde parle de Zidane, parce que les Griezmann et les anciens de la Coupe du Monde sont absents, parce que Mbappé fait parler de lui. J'ai aussi l'impression un peu que le contexte Israël, le contexte géopolitique peut jouer aussi en la défaveur de ce match que personne n'a regardé. Et une compétition en bois, faut pas l'oublier, c'est une compétition en bois, la Coupe des Nations. Donc moi je pense que, comme Julien qui finalement je pense est de notre avis, même s'il ne veut pas s'avouer, en Coupe du Monde et en Championnat d'Europe, il y aura aucun problème, on va revenir à la normalité et on va être super fiers, super heureux d'être supporter de cette équipe.
Ça tu le signes tout de suite ça.
Je signe tout de suite, sans aucun problème.
Euro, Coupe du Monde, c'est ce que je dis. Après, un désintérêt, un désamour, un désintérêt pendant, entre ces périodes de grandes compétitions, je pense qu'il est en train d'arriver pour plusieurs raisons. L'audience l'a prouvé et c'est pas parce que c'est Israël ou quoi que ce soit. À titre de comparaison, France-Japon au rugby il y a 2 ans au mois de novembre, c'est pas les All Blacks, c'est pas l'Afrique du Sud. Hein. Ça fait 4 millions et demi ou 5 millions sur France 2 et pas sur TF1.
Donc tu penses que le contexte géopolitique actuellement avec Israël n'a pas du tout influencé le fait que personne ne regarde.
C'est peut-être un des facteurs, mais on ne va pas s'attendre sur ça.
À la place d'Israël-France, c'était Bulgarie-France, le même match en Ligue des Nations, le même soir sur la même chaîne, ça aurait fait la même audience. Je pense que les gens peuvent en commencer à en avoir marre qu'on parle de Mbappé tous les jours pour pas des raisons sportives. Je pense que les joueurs, que les gens peuvent en avoir marre du fashion show à l'arrivée à Clairefontaine.
Ah ouais, tu trouves, toi?
Ouais. Je pense que pour l'instant, Mbappé, Griezmann, Giroud, pour Colomoini, Olise et Dembélé, c'est compliqué de prendre la place.
Ça peut pas justifier le désamour.
C'est pas le désamour. Le fait que les cadres changent, qu'on les aime plus.
Je ne dis pas ça. Je pense que attention, il peut y avoir un petit désintérêt.
En fait, le désamour, c'est du lobbying, tout simplement. Le désamour, c'est le lobbying parce que tout le monde rêve, moi le premier, que Zidane soit le sélectionneur de l'équipe de France. Donc ça part de là, le désamour. C'est-à-dire qu'on défonce Deschamps à tour de bras. Je suis désolé, messieurs, on dit que l'équipe de France est ennuyeuse à chaque fois, mais ennuyeuse, mais souvent gagnante,
quoi qu'on en dise. Je suis d'accord avec toi,
et ennuyeuse, pas tant que ça. Si on veut bien observer le football, l'observer dans son sens large, le football aujourd'hui, c'est beaucoup de stratégie, partout. Même Manchester City, on s'emmerde quelquefois. Oui. Donc, il faut bien dire qu'on fait du lobbying. Il faut dire aussi qu'Mbappé, il nous fatigue, ok? Il fatigue tout
le
monde.
Mbappé,
le problème, c'est comme il est extrêmement talentueux, il va bientôt terminer de nous fatiguer et tout le monde va s'enthousiasmer. Attendez simplement 2025, tirage au sort pour la Coupe du Monde 2026, les éliminatoires. Et puis, on en reparle. Là, c'est des matchs d'enfants que l'on voit.
Mais c'est ce qu'on dit.
Ok, donc tu prends ça avec Deschamps et avec Kylian Mbappé en parlant du désamour, si j'ai bien compris. Cyril Linette.
Oui, ça dépend évidemment. C'est toujours des cycles et ça dépend des résultats. On n'est pas à l'abri quand même que l'équipe de France rentre dans un cycle de résultats plus négatif. Et il ne faut pas oublier quand même que les audiences de l'Euro, de l'équipe de France, on parle de l'Euro et de la Coupe du Monde, ont été très décevantes, bien moindres que lors des dernières compétitions. Moi, je pense qu'il y a deux raisons. Il y a des raisons sportives. Griezmann, qui était sans doute le joueur le plus fédérateur, qui s'en va, qui était un peu le symbole de la reconstruction de l'image de l'équipe de France, qui a déjà connu ça. Entre Naïsna et 2014, il y a quand même eu 4-5 ans, ça n'a pas duré 6 mois, de vrais désamours. Et puis, bien sûr, ça revient. Donc, Griezmann qui part, Mbappé, en effet, aujourd'hui, dont on se demande où il en est, et puis une espèce de lassitude par rapport à Didier Deschamps, très bien décrite par Pascal. Mais moi, je pense qu'il y a aussi un contexte hors foot, hors sport, qui est... parce qu'on parle du rugby, mais le rugby, il est toujours à part. Il peut se passer n'importe quoi. En France ou dans le rugby, il y aura toujours du monde pour regarder le rugby. Le foot, on le dit toujours, c'est le reflet de la société. On parle d'équipe de France. Est-ce que la France, aujourd'hui, forme une équipe? Moi, j'en suis pas sûr, globalement. Donc, je pense que le contexte d'un match contre Israël a joué, comme je pense que les prises de position des joueurs de l'équipe de France, très fortes, pendant les élections, contre le Rassemblement National ont mis à distance l'équipe de France d'un certain nombre d'électeurs du Rassemblement National. Comme je pense que le fait que des gens de gauche estiment aujourd'hui que l'élection de la dissolution leur a été volée, et quand on sait la proximité entre le président de la République et Kylian Mbappé et l'équipe de France, ça joue aussi. Il y a quelque chose. On demande à l'équipe de France de foot depuis toujours de servir de lien à la nation. La nation n'est pas liée aujourd'hui. Elle est fracturée. On ne forme pas une équipe. Et je ne suis pas surprise que ce soit sur l'équipe de France de foot, avant tout que ça tombe. Alors ça peut changer, il faut des bons résultats, il faut des choses.
Mais quand tu dis que l'équipe de France ne forme pas une équipe,
un petit peu de bons résultats, ça ira sans problème. Oui. Et Mbappé, moi je pense qu'au contraire, ça peut devenir une tête de Turc. On continuera à aimer l'équipe de France, mais on aimera de moins en moins qu'il y en ait Mbappé.
Parce que l'équipe de France de foot, elle est chargée de régler les problèmes. Quand en 98, elle règle les problèmes d'intégration parce qu'elle gagne la Coupe du Monde. Mais elle peut aussi être l'exutoire d'une France aujourd'hui qui va pas bien, d'une France qui grogne, où tout le monde s'engueule toute la journée. Avec quel meilleur vecteur que l'équipe de France.
Je comprends davantage, Cyril, quand tu dis que l'équipe de France ne forme pas une équipe, tu parles de l'équipe de France qui ne fait pas l'osmose. C'est ce que tu veux dire.
Je veux dire que le pays France.
Avec son public, avec ses supporters.
Je veux dire, le pays France ne forme pas une équipe. Comment veux-tu que dans un pays qui ne forme pas une équipe, on puisse complètement se rassembler derrière l'équipe de France?
Pour autant, le pays France ne forme pas une équipe.
C'est les deux.
Oui, mais c'est à ça que sert le sport, à se rassembler quand c'est compliqué.
Mais pour autant,
le
tout le monde
est le meilleur vecteur pour ça.
Tout le monde a vanté, le succès des Jeux Olympiques, notamment du soutien des supporters français aux athlètes olympiques français. Donc, pourtant, le pays était aussi fracturé.
Parce qu'ils ont une image gentille, parce que c'est une image positive du sport. À partir du moment où l'équipe de France de foot bascule dans le négatif, avec les nuls, avec Mbappé, tout ça, ça devient
négatif. Si, Pascal, en fait, tu donnes de l'eau à mon moulin, c'est que on va comparer un petit peu l'équipe de France olympique dans son ensemble. Le rugby, pourquoi le rugby est populaire? Là, ils ont eu un été catastrophique. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez voir les audiences qu'ils vont faire au mois de novembre.
Ça passe tout seul.
Ça va passer.
Toujours.
Parce que Dupont, capitaine, qu'est-ce qu'il renvoie Dupont? Il revient hier en 20 minutes, il fait un triplé. Il parle pas de lui. Il parle des autres. Il va aux États-Unis pour s'entraîner avec la NFL. Il fait pas des cagoleries à droite, à gauche. Il parle que des autres. Il se met jamais en avant.
Certains pourraient dire qu'il se perd, justement, Dupont. Hein. En allant jouer avec A7.
Moi, je trouve qu'il se perd pas trop mal.
Certains pourraient le penser.
Il va au 7. Il est champion olympique. Son président de club dit, mais il faut lui dire merci. Bref, il est capitaine, il transpire ça. Mbappé, aujourd'hui, il est capitaine de l'équipe de France et il transpire autre chose qui peut déteindre.
Il transpire pas beaucoup. Hein.
Exactement. Et qui peut déteindre sur le reste de l'équipe, sur l'image que le reste de l'équipe peut renvoyer, malgré elle. Parce que c'est le capitaine et que c'est
donc en fait, tu reviens à dire que c'est de la faute de Didier Deschamps, il l'a nommé capitaine, c'est ça? Allez, c'est de la faute de Didier,
tu sais quoi. Moi, je pense que sans Didier Deschamps, on serait, mais ce serait bien pire.
RMC, les grandes gueules du sport. RMC.fr et appli RMC.
RMC en direct, partout, tout le temps.
Bonjour, c'est Apolline.
RMC, Apolline Matin.
Rendez-vous tout à l'heure pour Apolline Matin dès 6h30 sur RMC. Toujours de l'info, toujours du débat, l'interview, le face-à-face pour cette année qui promet d'être particulièrement importante du point de vue politique. La période demande plus que jamais, non seulement de l'information, de la clarté, mais aussi de vous entendre, vous, et vous aurez toujours la parole. Vous êtes chez vous au 32-16 dans Apolline Matin. Alors je vous dis à tout à l'heure, 6h30 sur RMC.
Événement rugby à Toulon avec RMC. Samedi à 16h30, le Rugby Club Toulonnais affronte le Montpellier Hérault Rugby au Stade Mayol. Place en vente sur rctoulon.com. Toulon-Montpellier, samedi à 16h30 à Mayol avec RMC.
Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff.
RMC, les grandes gueules du sport.
Restons un instant sur notre débat qui concerne l'équipe de France. Demain, il y aura un autre match de Ligue des Nations. Ce sera en Belgique. Belgique-France, évidemment, à suivre sur RMC. Notre débat ce matin, est-ce que notre équipe de France pourrait se couper du public? Est-ce qu'il pourrait y avoir un désamour? Je vous propose d'écouter Didier Deschamps. C'était durant l'Euro. Ça dure quelques secondes quand on lui disait, et d'ailleurs Antoine Griezmann ne s'en était pas caché en conférence de presse, que le jeu des Bleus était, pardonnez-moi, je me laverai la bouche ensuite, un peu chiant. Voici ce que disait Didier Deschamps.
Je pense que si les gens ils aiment pas ce qu'ils voient, ils changent de chaîne. Hein. C'est plus facile à la maison, quoi.
Est-ce que sur ce genre de déclaration, est-ce que ça fait pas un peu de mal à cette équipe de France comme passeur d'émotions, l'entraîneur là,
Pascal? Non, mais là Didier Deschamps, là, c'est une des rares fois il me déçoit en fait, parce qu'il fait comme les joueurs de l'équipe de France. En fait, les joueurs déteignent sur lui, c'est dommage. Parce que je ne dois jamais dire ça en tant que sélectionneur. À la limite, il s'en fout qu'on le regarde le match. Non, mais quoi, qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
C'est affreux comme déclaration, parce que justement, c'est le public qu'il fait vivre, c'est le public qu'il doit animer. Et justement, pour qu'il n'y ait pas ce désamour, il doit communiquer avec le public, expliquer c'est le jeu qu'on pratique. Grâce à ça, on a réussi à avoir des résultats, ouais, mais... avoir un langage un petit peu langue de bois.
Ça fait 10 ans qu'il l'explique.
Oui, mais sauf que tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit de dire. En gros, tu es en train de dire j'aime pas, tu changes de chaîne, on s'en fout, parce que nous, on n'a pas besoin de toi pour vivre. C'est un petit peu plus compliqué que ça.
Je suis d'accord. Il ne peut pas dire ça, mais là, il faut reprendre le contexte. C'est à la fin de la compétition.
Non, c'est pendant la compétition. C'est avant le troisième match de la compétition. Les deux premiers matchs avaient été poussifs.
Il sort une finale de Coupe du Monde. Il sort de tout. Et il a toujours des critiques.
C'est son job. Il est payé pour ça. Il doit répondre aux critiques.
Bon, au bout d'un moment, les consultants, les journalistes, les trucs,
d'ailleurs, c'est plus que des critiques, voilà. En fait. C'est un lynchage permanent.
Mais moi, enfin, on a déjà fait ce débat ici l'année dernière ou quoi que ce soit. Enfin,
t'es en train de dire qu'on refait des débats?
Non,
dans cette émission,
mais on se trompe complètement. Enfin, je veux dire, je crois qu'on est utopique de croire que si Zinedine Zidane est sélectionneur, tout d'un coup, on va jouer, il va y avoir une touche de balle, des dédoublements, des centres en retrait, des frappes dans la lucarne, etc. C'est un football
dans la lucarne du mauvais pied, en plus.
Ouais, exactement. C'est un football de sélection où les gars arrivent, sont cramés par les clubs. Ils ont trois jours, les entraîneurs ont trois jours de préparation pour faire des matchs sans enjeu, et on pense que ça va être mon
feu. La question n'est pas là. Qu'il ait des critiques, c'est un peu son job de sélectionneur d'avoir des critiques. Alors, ouais, effectivement, elles sont beaucoup trop nombreuses, et on a tous envie que Zidane arrive. Enfin, en tous les cas, les médias et la plupart des gens dans le milieu du foot ont envie qu'il arrive. Sauf qu'à un moment, en tant que sélectionneur.
Jean-Christophe, il a envie qu'il arrive.
On n'a pas le droit, en tant que sélectionneur, de encore une fois, on parlait de ce
coup. C'est la seule erreur qu'il a
commise. Il n'a pas le droit se couper des supporters. Oui. Les supporters qui sont là, qui applaudissent. Tu n'as pas le droit de faire ça.
Didier Deschamps, c'est un peu coupé des supporters.
C'est possible, et en tout cas, il a un patron, soit le président de la fédération, et c'est à lui, effectivement, de reprendre le manche et de reprendre les sujets en main sur ces sujets-là, les sujets d'image, les sujets de comportement des joueurs, les sujets d'arrivée à Clairefontaine, et même de la communication de son entraîneur. Il a un patron, Didier Deschamps, me semble-t-il. Je vous raconter une
anecdote. T'as d'être patron de la fédé?
Non, je ne serai pas, je l'ai dit, pas du tout. Je ne serai pas, je l'ai dit.
J'aime bien les instances du football français.
J'étais très clair. Non, mais il ne faut pas confondre. C'est très clair. J'étais très clair là-dessus. Je ne le saurais pas. Je ne serais pas. Mais mes convictions, elles demeurent malgré tout. Et je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais patron des sports de Canal, avant la Coupe du Monde 2010, la situation était catastrophique pour le football français. Avant la Coupe du Monde, on y avait vraiment les pieds. C'était la catastrophe. C'était Raymond Domenech. Il était décrédibilisé après l'Euro 2008, sa demande en mariage, et ainsi de suite. Et je ne vise personne. C'est juste l'anecdote. Je discute avec Frédéric Thirier quelques mois avant la Coupe du Monde, et je lui dis le patron de la Ligue. Et je lui dis mais la Ligue, la Fédé, ainsi de suite, on parle avec Frédéric, et je lui dis mais Frédéric, on va à la Coupe du Monde avec Raymond, avec quand même globalement un manager qui est entre guillemets désavoué par une grande partie de l'opinion publique et de ses propres joueurs, parce que ça partait dans tous les sens. Je compare pas avec Deschamps, c'est juste pour raconter quand on prend pas une décision. Et Frédéric me dit, ça c'est avant la Coupe du Monde, il me dit bah oui, on y va avec Raymond, on sait que ça va pas marcher, mais bon, au mois d'août on change, on met Laurent Blanc et tout ira mieux. Eh ben, un mois après, il y a Nisna. Et donc, quand on ne prend pas une décision, je ne dis pas qu'à l'époque, en tout cas, on ne devait pas aller à la Coupe du Monde 2010 avec Raymond Domenech, dans l'état de sa relation avec le reste de l'équipe, avec son management, et avec l'opinion publique et avec les médias. Il aurait fallu être beaucoup plus prudent, parce qu'on s'est cogné Nisna, et après, on a mis 4-5 ans à remonter la pente. Là, si la dérive venait à continuer, des amours, résultats, type de jeu, comportement des joueurs, façon Mbappé, je fais ce que je veux, Griezmann dont les conditions du départ sont pas complètement claires. Si on continue, comme souvent dans les fédés, à dire ben, « je mets tout ça sous le tapis, ça va s'arranger de soi-même », dans la vie, ça ne s'arrange jamais de soi-même. Il faut prendre les choses en main. Il y a un
moment
donné...
Si tu ne bouges pas, tu t'aggraves la situation, en fait. Effectivement, il faut un vrai patron.
Ça ne fait qu'aggraver. À un moment donné, c'est quelques messages pour dire « voilà, il faut qu'on reprenne un peu les choses en main. On a une belle équipe, il y a un changement de génération, les supporters doivent comprendre qu'on ne peut pas toujours gagner, mais il y a ça, en termes de valeur et de fonctionnement. »
Mais qu'est-ce qui fait que ça ne bouge pas, justement ? Parce qu'en fait, on a l'impression que tout le monde le voit, tout le monde s'en rend compte. Pourquoi le président ?
Déjà, il faudrait savoir, pour essayer de comparer, même si je sais qu'évidemment, Cyril, tu ne comparais pas les deux sélectionneurs, mais savoir s'il a un peu perdu la main. Est-ce que toi, Pascal, tu sens ça? Ou alors c'est juste des reproches du public, des médias, mais qu'il ne perd pas la main?
Peut-être qu'il s'exaspère parce qu'il se fait déglinguer en permanence. faut aussi se mettre à sa place, ça doit être difficile. Et ça doit être difficile par rapport à ce qu'il doit dégager devant ses joueurs. Les joueurs, ils lisent aussi, ils entendent tout ce qui se dit sur Deschamps. Donc à force, ça commence aussi certainement à faire le chemin dans leurs esprits respectifs. Ils ont peut-être aussi, je dis bien peut-être, hein, j'emploie le conditionnel, envie de voir ce changement-là, puisque on le cite tous les jours. Chaque fois qu'on parle de Deschamps, on nous parle de la volonté unanime de le voir remplacer. Donc tout ça, ça doit être quand même compliqué. Et Didier Deschamps, il n'a pas perdu la main, parce qu'il fait très bien son boulot. Les générations, elles passent. Il est toujours là, il obtient toujours des résultats. On l'oublie trop. Et on s'apercevra le jour où on ne gagnera pas.
Évidemment.
Sans lui, on s'apercevra qu'il n'était pas si mal, le garçon.
Content, on aura bien joué, on aura perdu en quart, on aura fait deux barres, on aura bien joué, comme en 82, comme en 86, mais on ne gênera plus.
Ok, il nous renvoie de vieux souvenirs, évidemment, cruels souvenirs, merci.
Ah mais, Julien,
le désamour du public, il y a Pierre qui nous appelle au 32-16. Bonjour Pierre.
Bonjour les gars.
Bonjour.
Alors Pierre, est-ce que les Bleus risquent le désamour ?
Ouais, moi j'en suis quasi persuadé, c'est un peu fort, mais en tout cas j'en ai vraiment le ressentiment en ce moment. Je vais reprendre les mots de Julien Beneteau là, qui parle de problème d'identification. Je suis complètement d'accord avec toi. Quand je vois une arrivée à Clairefontaine, où c'est la première information qu'on a du Rassemblement des Bleus, c'est de savoir qui est habillé comment, et encore je parle même pas des pieds. Je me demande, mais dans quel monde on vit, quoi? C'est l'individualisation, pardon, possible. Moi, je me reconnais pas du tout là-dedans. Je pense qu'on est toute une génération qui a beaucoup de mal à vivre avec ça. Vous parliez aussi des prises de position politiques. Là, le sujet est un peu plus tendu parce qu'à mon avis, je pense qu'ils ont tout leur rôle là-dedans, bien que ça leur porte préjudice. Et puis, je pousserais même un petit peu plus loin. Moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est quelle image on laisse aux petits qui sont censés s'identifier à ces gamins-là, en fait. Moi, c'est vraiment ce qui me fait mal. Donc, j'ai vraiment l'impression que notre génération à nous s'en détache de plus en plus.
Oui.
Et que ça va faire aussi encore plus mal à la jeune génération qui va s'identifier à des mecs comme ça, quoi.
Je m'attarde sur le plus léger, les GG. Il y a deux choses. Déjà, il y a cette histoire de la Fashion Week, là, en rassemblement. Bon, j'ai l'impression qu'on prend ça un peu trop au sérieux, c'est-à-dire qu'on s'en moque un peu. En NBA, ça nous fait tous marrer de voir les Américains arriver comme ça, et en équipe de France, bah ça doit pas se faire. Ça vous a choqué ou pas?
Moi, ça m'a choqué, la cagoule. Enfin, je sais pas. Oh,
en NBA, c'est leur club, etc. En équipe de France, c'est la France, c'est l'équipe de France, c'est le.
Quand ils sont avec Team USA, ils sont pas habillés comme ça. Ils respectent le maillot, ils respectent leur pays, leur sélection. Ça n'a rien à voir.
Ah carrément, on va sur le manque de respect.
Il y a vraiment des codes en NBA qui te permettent d'arriver quand tu es en club, d'arriver comme tu veux, sauf que quand tu arrives en sélection, il y a un dress code et tu respectes ce dress code.
Ok, rapidement sur ce sujet, là, Cyril, le président doit dire on arrête.
Ouais, pour moi, le président doit dire on arrête, effectivement, c'est quand même pas très compliqué, c'est à lui de le faire. Didier peut pas tout faire, c'est à lui de le faire, de dire voilà, je le souhaite, c'est sa position de patron.
Jean-Christophe, je peux te poser une question?
Bien
la
sûr.
Prochaine émission, on peut venir en cagoulé?
Bah, moi, ça ne me dérange pas.
Ça ne te dérange pas?
Bah, okay. On parle de
tous en cagoulé dimanche.
Très bien. Et puis, on se verra aussi le samedi soir. Les soirées cagoulé et tout ça, ça peut être sympa.
Bien.
Ce serait très symbolique. Mais c'est pour ça que c'est parce que c'est symbolique que c'est important.
Ok. Et une dernière question, toi qui as adoré en tant que footeux, Pascal, les Jeux Olympiques. Est-ce que, et vous l'avez cité d'ailleurs, on ne s'est pas attardé dessus. Je crois que c'est Julien. Est-ce qu'à un moment donné, les Jeux Olympiques, quand on a vu cette ferveur, ces champions, ces sportifs hyper accessibles, là, l'équipe de France est en train de lui faire mal maintenant?
Non, mais ça, c'est
mais on est en train de jouer la Ligue des Nations. Tu compares la Ligue des Nations avec les Jeux Olympiques. Oui. Attendez un tout petit peu qu'il y ait des matchs en jeu et vous verrez que vous allez tous revenir à de meilleurs sentiments.
Il y a raison, Pascal.
C'était juste pour réénerver Pascal.
Ah, j'ai été
envie de leur piquer, me parler de soirée cagoule et tout ça. J'aime pas ces propositions. Merci Pierre d'avoir été avec nous au 32-16.
RMC, les grandes gueules du sport.
Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC. Les grandes gueules d'RMC ont 20 ans.
Et il y a 20 ans, en 2004, à la radio, on écoutait ça. Écoutez bien RMC.
Dès que vous entendez un de ces titres de l'année 2004 sur RMC,
envoyez GG par SMS au 732-16.
Les grandes gueules vous offrent jusqu'à 5000 euros.
En 91, les échos évoquaient déjà la voiture électrique pour tout le monde. En 97, les échos vous annonçaient déjà l'émergence d'Amazon. En 2018, on vous parlait déjà de l'impact de l'intelligence artificielle. Et si vous lisiez l'avenir dans les articles d'aujourd'hui ? Les Échos, prenez un temps d'avance. Abonnez-vous dès maintenant. Dimanche 3 novembre, rendez-vous au pied de la Tour Eiffel pour une course mythique en plein cœur de Paris avec RMC. Inscrivez votre équipe au Maïf Equidène de Paris et parcourez la distance du marathon en relais de 3 ou 6 coureurs dans une ambiance de folie. Informations et inscriptions sur maif-equidène-paris.fr. Le Maïf Equidène de Paris, dimanche 3 novembre avec RMC.
Bonjour, c'est Charles Magnin sur RMC.
RMC, Charles Matin.
On se retrouve tout à l'heure dès 5h en direct pour Charles Matin. Toute l'info, tous les sujets de votre quotidien avec toute la bande. Géraldine Demory, Manu Le Chypre, Amélie Rosic, Anthony Morel et vous, à tout moment, au 32-16. On se réveille tous ensemble pour toute l'actu et votre dose de bonne humeur. Rendez-vous dès 5h sur RMC.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff. RMC.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. On va poursuivre sur l'équipe de France avec cette première information. Les Bleus qui réagissent à la virée suédoise de Kylian Mbappé. On s'en fout pas. Fred Weiss.
On s'en fout pas.
Cyril Linette.
On s'en fout pas.
Pascal Duprat.
On s'en fout.
J'aurais bien aimé t'entendre là-dessus. Hein. Mais t'as le droit, c'est stratégique.
Moi, je m'en fous, parce que c'est d'accord.
Ok, alors hier, à deux jours d'affronter la Belgique en Ligue des Nations, Wesley Fofana et Matteo Guendouzi se sont présentés en conférence de presse. Bien joué, la com' des Bleus, d'avoir choisi deux cadors pour parler de Kylian Mbappé. Évidemment, ils ont été invités à réagir à l'escapade de leur capitaine à Stockholm, le soir d'Israël-France. On les écoute.
Nous, il n'y a aucun doute par rapport à Kylian. On l'a eu au téléphone encore avant le match. On l'a par message. C'est quelqu'un qui est attaché à nous, attaché à l'équipe de France. C'est un joueur qui aime son pays. C'est un joueur qui aime cette équipe et qui continuera à nous aider à la ramener au plus haut niveau et j'espère le plus haut possible. Mais en tout cas, vraiment, faut arrêter de trop en parler parce que vous vivez de ça aussi de parler de lui tous les jours. Après, il a des jours de repos. Il fait ce que bon lui semble pendant ses jours de repos. Mais en tout cas, faut vraiment pas se poser des questions avec l'attachement de Kylian avec l'équipe de France parce que cette question ne devrait même pas se poser de par ce qu'il a fait pour l'équipe de France, ce qu'il continue à faire et de ce qu'il fera encore dans le futur pour nous.
Chacun fait ce qu'il veut de son temps libre, mais après aujourd'hui ça n'a pas été une source de discussion. J'ai pas entendu parler de cette histoire. Après pour l'histoire de Kylian, il fait ce qu'il veut, c'est un grand garçon. Il gère sa carrière comme il entend, c'est un grand professionnel, il n'y a rien d'autre à dire.
Il n'y a rien d'autre à dire, c'était Guendouzi d'abord, puis Fofana ensuite. Fred Weiss.
Je suis partagé parce que d'un côté on dit justement qu'il n'y a pas d'équipe de France, qu'on n'est pas solidaire, mais on sait que c'est de la com' évidemment, mais la com' est bonne en tout cas par rapport aux joueurs. Mais de l'autre côté, Kylian Mbappé il fait absolument n'importe quoi là. Tu peux pas sortir en boîte quand t'as l'équipe de France qui est en train de jouer. Tu peux pas sortir en boîte quand t'as été aligné avec le Real Madrid, que t'es censé être resté à Madrid pour travailler, pour te reposer, pour soigner tes blessures et aller en boîte. Ça, tu peux pas le faire. Donc, je suis très partagé. J'ai envie de dire que la com l'emporte parce que c'est important de rester solidaire. Mais dans l'absolu, Kylian Mbappé, n'importe quoi.
Non, on a décrit des difficultés de management. Moi, je pense qu'en effet, l'équipe de France doit être plus dirigée, et pas simplement par son sélectionneur. Mais je pense que Didier, évidemment, a passé les messages. C'est bien de choisir des joueurs qui vont tenir ce type de propos, qui sont totalement lénifiants, on est bien d'accord. Et pas de prendre des joueurs qui auraient peut-être été un peu plus piquants ou auraient laissé une allusion un peu derrière eux. Je pense que dans un moment comme ça, il faut que tout le monde soit, entre guillemets, aligné et solidaire. Les choses doivent se régler dans la cuisine. Donc, moi, je pense que c'est pour le coup une communication peut-être un peu décevante pour nous, mais qui est logique et qui montre que le sujet a été au minimum managé en équipe de France.
Oui, parce que c'est vrai que si Mike Maignan se présente en conférence de presse, voilà, sort une bombe, il est possible qu'on fasse un débat directement aujourd'hui dans l'émission, que je change encore une fois votre conducteur.
C'est plus amusant, mais ça voudrait dire qu'il y a un vrai malaise. Donc là, ça a été plutôt bien géré.
Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est le budget des sports en baisse de beaucoup, hein, 268 millions d'euros. On s'en fout pas, Fred Weiss.
On s'en fout pas.
Ok, Pascal Duprat.
On s'en fout pas.
Alors, Julien Beneteau, Cyril Linette.
On s'en fout pas.
Alors, le Premier ministre Michel Barnier présentait, vous le savez, hein, cette semaine son projet de loi finance devant le Conseil des ministres et dans un contexte difficile et de déficit des comptes publics. Le budget du ministère des Sports doit être raboté de 268 millions d'euros. Mais ce que l'on nous dit auprès du ministère, qui ne remet pas en cause
les ambitions.
On explique qu'une partie de ce chiffre est due à la fin des dépenses liées aux Jeux Olympiques et à des ajustements. Je ne vais pas vous perdre cadre dans les chiffres, mais déjà une première sensation. Julien, je sens que ça tient à cœur.
Oui, ça devait être un des héritages que les Jeux Olympiques de Paris devaient laisser. C'est incroyable que le premier budget post-olympique, quand on a vu la ferveur qu'il y a eu en France, soit à la base de 268 millions, quel que soit l'état des finances du pays. On nous rabâche les...
Ah, 3 000 milliards de déficit.
Mais ça doit...
3 000 milliards et plus.
Oui, mais ça... Mais
non,
ça...
pas peu importe le déficit. Enfin, si tu rabotes aussi le sport. Enfin.
Oui, mais pas de cette manière-là. Et le sport doit être une priorité. On nous fait croire que... à l'école, il faut faire du sport, que les enfants doivent avoir accès au sport, que le sport réunit, ils le voient pendant les Jeux Olympiques, pendant les Coupes du Monde de foot, pendant les Coupes du Monde de rugby. Le seul moment où le pays est uni, devant le poste de télé, dans les rues, dans les cafés, c'est quand il y a un grand événement sportif.
Julien, sur le principe, moi je suis complètement d'accord avec toi, mais j'ai lu un excellent article qui disait qu'en gros, l'argent, le différentiel, c'était ce qui était alloué aux Jeux Olympiques particuliers.
Pas seulement. C'est 260 millions, il y a 110 millions de brut.
Oui,
150 millions qui étaient liés aux Jeux
Olympiques. Donc il y a quand même déjà une partie qui était allouée à
disons que ce n'est pas une baisse de 25%, c'est une baisse de 12%.
Exactement, ce qui n'est pas exactement la même chose. Alors je suis d'accord avec toi, j'aurais souhaité que ça continue sur le même budget, évidemment, et évidemment qu'on a rêvé, et évidemment qu'on souhaitait un héritage, sauf que concrètement, comme Cyril vient de le dire, c'est pas exactement 25%, c'est un petit peu moins, et il y a une partie qui est explicable.
Alors justement, j'ai quand même regardé en détail, parce que je passe de très bons week-ends, mais surtout pour vous apporter aussi un chiffre, parce que c'est important quand même, les moyens des établissements publics liés au haut niveau progressent. Hein. CREPS, INSEP, les écoles nationales verront leurs moyens augmenter de 4 millions. C'est que 4 millions, c'est 146 contre 142, donc voilà, tout ne baisse pas partout, et ça c'était un des piliers, en tout cas, cette formation qui nous tenait à cœur. Cyril Linette.
Sur ce sujet. Non, mais je pense qu'il n'y a pas le choix. De toute façon, il faut chercher des économies partout. Malheureusement, on peut déplorer le déficit d'anticipation, notamment lié à l'afflux des licenciés post-JO, qui visiblement n'a pas complètement été prévu dans les clubs. Bon, ça, malheureusement, c'est assez classique dans le terme de politique publique en France. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment le choix. Voilà, il faut accepter, malheureusement pour le sport, mais toutes les industries sont soumises à un régime à peu près identique. Donc c'est décevant, mais ça n'est pas complètement farfelu compte tenu du contexte.
Personnel, merci, ou tu veux y aller?
Non, mais bon, même les retraités vont devoir se serrer la ceinture.
Je sais, Christophe, il nous en a parlé hier.
Les politiques, ils ont prévu quelque chose.
En attendant, le budget du Sénat, le budget de l'Élysée, le budget de l'Assemblée nationale, il augmente.
C'est plus une question.
Ils ne sont plus audibles, ils ne sont pas crédibles.
C'est les 20 ans des GG cette semaine.
C'est vraiment pénible.
Et je sens que vous êtes de très très bonnes GG. Je vais proposer vos noms pour la semaine, les copains. Mais vous resterez un peu avec nous dans les grandes gueules du sport.
RMC, les grandes gueules du sport.
RMC partout. RMC tout le temps.
Podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
Tous les soirs, entre 18h et 20h sur RMC, c'est Roten sans flamme avec Jérôme Roten.
2 heures de débat foot autour de l'actu du moment. Des invités d'exception, les analyses d'après-match, d'avant-match avec la Dream Team Foot RMC.
Et pour détendre tout ça, Julien Cazard vous livre son journal du foot à sa façon.
Roten sans flamme, du lundi au vendredi, 18h-20h sur RMC. RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Événement rugby à Toulon avec RMC. Samedi à 16h30, le Rugby Club Toulonnais affronte le Montpellier Hero Rugby au Stade Mayol. Place en vente sur rctoulon.com. Toulon-Montpellier, samedi à 16h30 à Mayol avec RMC. Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ? Sur RMC.
Sur RMC. Vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC. Le bras de fer GG.
Je pense que je ne mérite pas d'arrêter de cette manière. J'ai travaillé dur toute ma vie. Je vais travailler très dur pour finir ma carrière de la meilleure manière possible.
Incroyable, et ça termine sur ce petit coup de patte. Et Rafael Nadal réussit pleinement et parfaitement de retour à la compétition.
Après un an sans compétition, c'est l'heure de revenir. On se donne rendez-vous là-bas.
Nadal a une batte d'attaque. Il monte. Elle est sur la ligne. Et il finit là-dessus.
immense champion, il enchaîne sa raquette, il n'en prend pas ses yeux.
J'ai travaillé autant que possible chaque jour au cours des derniers mois. Je ne suis pas arrivé à trouver de solution au problème que j'ai eu en Australie.
Pas de podium pour Raphaël Nadal et je le surveille parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on le voit quitter le court. Philippe Châtrier, est-ce qu'il y pense dans sa tête? Je ne sais pas, en tout cas, il s'arrête, il va vers le centre du terrain, il salue la foule, il prend son temps, il savoure. C'est peut-être les adieux de Rafa Nadal ici sur ce court.
Ces deux dernières années ont été particulièrement compliquées. Je pense que je n'ai pas réussi à jouer sans limitation. Je suis ici pour vous annoncer que je prends ma retraite du tennis professionnel.
Ce sera donc à Malaga, dans un mois, que Rafael Nadal fera ses adieux à un dernier défi en Coupe Davis, chez lui en Espagne, après une carrière évidemment monstrueuse. Jeudi, le roi de la terre battue, vous l'avez entendu, a donc pris la décision que tous les amoureux du tennis redoutaient. Il a dit stop. Son corps a dit stop. Après 2 ans de galère, lui qui rêvait pourtant d'une sortie en 2025 à Roland-Garros. Rafael Nadal a-t-il raté sa fin de carrière? Dans le coin gauche, la team Oui, représentée par Fred Weiss. Et il est tout seul. Dans le coin droit, la team non. Julien Beneteau, Pascal Duprat, Cyril Linette. On vous a posé cette question sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Et pour l'instant, il y a une tendance qui se dégage. Mais c'est serré tout de même. 59% non, il n'a pas raté sa fin de carrière. 41% oui. Tu vas commencer, Fred, car tu es derrière. Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste tennis, Eric Salio. Bonjour, Eric.
Salut, les grandes gueules.
Qui pleure hein, depuis jeudi.
Salut, Eric.
Hein, salut, Eric.
Richie, Rafa, ça fait beaucoup, là, oui.
Ah,
oui.
Eric. Ton romantisme légendaire.
On le connaît pour ça. La fin de carrière, c'est vrai, de Rafael Nadal ne rimait plus à grand-chose hein, ces derniers mois.
C'est sévère quand même. Enfin, les faits sont là. Le dernier trophée brandi par Rafael Nadal, c'est la Coupe des Mousquetaires en 2022, 14e du nom. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, en s'infligeant un traitement d'infiltration pour soulager son pied, il ne s'est pas sacrifié, il n'a pas fait all-in. 2 jours après son sacre à Paris, il bénéficie d'injections à radiofréquence pulsatile et le problème est réglé. À Wimbledon, il est très très bon, mais il est trahi par ses abdos lors de son quart de finale face à Fritz. Il va au bout, mais la lésion est trop sérieuse et il renonce à jouer sa demi face à Kyrgios. On le revoit à l'US, son élimination face à Tiafoe laisse un sentiment mitigé. Il finit l'année comme il peut à la 2e place mondiale. Début 2023, c'est le couac à l'Open d'Australie. Grave blessure au psoas en plein match contre McDonald. Il ne s'en remettra pas, il renonce à défendre son titre Port d'Auteuil. C'est une saison quasi blanche, mais il ne lâche rien. En début d'année, il s'envole pour l'Australie. Il s'aligne sur un ATP 250 à Brisbane avec le dossard 672, mais en quart, on le voit grimacer face à Thompson. Un problème à la hanche et il file à l'aéroport. La flamme vacille, mais il reprend en avril à Barcelone. Sa lenteur fait peine à voir. Il y a du mieux à Madrid, mais il rechute lourdement face à Urquhart à Rome. On est le 11 mai et là, on se pose des questions. Et pourtant, il débarque à Paris une semaine avant les Internationaux de France. Un pari fou. Les séances d'entraînement sont bonnes, mais le sort est cruel avec un premier tour face à Zverev. Le match est correct, mais la défaite est sèche. 6-3, 7-6, 6-3. Il n'a alors plus qu'un seul objectif, les Jeux dans son jardin. La manière dont Djokovic le démolit au deuxième tour, il y a eu 6-1, 4-0, il ne faut pas l'oublier. Il fait pleurer ses fans. La mission double avec Alcaraz est un échec. Et quand il quitte le Châtrier, il bifurque vers le milieu du court pour saluer la foule. Certains se disent qu'on ne le verra peut-être plus jamais en short sur ce court. Depuis jeudi matin, c'est acté.
Merci beaucoup Eric Salio pour ces précisions. Tu restes avec nous pour ce débat. Je retiendrai une phrase qui nous est tous arrivée. Trahi par ses abdos. Rafael Nadal a-t-il raté sa fin de carrière? Oui, non, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. C'est oui pour Fred Weiss, t'es tout seul, vas-y.
Oui, le constat peut être un peu difficile, hein, mais quand on est une superstar, une légende, un joueur aussi monstrueux, on s'attend à ce qu'il termine en apothéose. Alors, beaucoup de mes collègues ici me diront que tous peu on réussit à partir au bon moment. Il n'a pas réussi, Rafael Nadal. Et c'est pas parce que les autres n'ont pas réussi qu'il n'aurait pas dû le faire, lui. Je pense qu'après 2022, oui, il est bon. À Wimbledon, il a ses problèmes d'abdominaux. Mais après, c'est une traversée du désert. C'est-à-dire qu'on le voyait jouer, on le voyait pas jouer. Il revenait, c'était lent. J'ai écouté Eric Salio hein, dans son plaidoyer, qui est, on entend qu'il est fan de ce joueur. Rafa Nadal était un joueur fantastique et quand on le voit comme ça lutter autant, que quand on le voit être tant en difficulté, ce joueur tellement dominant, ça nous attriste. Alors oui, certains diront, ah, Roland Garros, il tombe contre Zverev dès le premier match et évidemment, ça met un coup d'arrêt. Oui, sauf que ça fait partie du jeu. Mais moi, je me rappelle aussi avoir écouté Eric Salio parler pendant les Jeux Olympiques, quand il tombe contre Djoko, j'entends Eric Salio, j'entends cette tristesse dans la voix, cette déception, être quasiment anéanti de voir cette idole.
Un champion déchu.
Un champion déchu, mais surtout sur sa terre battue, sur son court. et c'est là que ça a été difficile.
Ok, donc pour toi, ça reste... Julien, tu peux lui répondre, évidemment, toi, le tennisman.
Non, pour moi, c'est pas raté, parce que effectivement, il y a le dernier titre remonte à 2022, et en fait, depuis, il avait des ambitions qui étaient clairsemées. C'était les Jeux Olympiques dans un coin de sa tête pour essayer de revenir, d'être compétitif, que ce soit en simple ou en double. Donc en double, il l'a fait avec Alcaraz, il a perdu en quart de finale. Et puis là, maintenant, il voit très bien qu'il est plus compétitif pour aller gagner un grand chelem.
Enfin, les objectifs que tu viens de citer, il s'est raté dans les deux et en simple, dans les grandes longueurs.
C'est pas pour autant que pour moi, c'est raté.
On n'est pas en train de dire que ça gâche sa carrière. Hein.
Ah non, pas du tout. Hein.
Roger Federer à Wimbledon,
il pose cette question.
Pourquoi tu mets cette question au sujet?
Parce que t'es un pervers.
La fin de carrière.
Voilà. Parce que tu dois rien dire sur Nadal. Pardon de te couper. C'est impressionnant. Il a 38 ans. Heureusement qu'il est un peu moins bien. Il craque de partout. Pourquoi vous faites des sujets pareils?
Parce qu'à un moment donné, nos idoles, on a envie de les voir au sommet et s'arrêter au sommet.
Partir sans qu'ils l'annoncent. C'est en fait pour qu'il réussisse sa sortie dans votre esprit. Ça voudrait dire que quelques mois après Roland-Garros 2022, ils sentent que son corps ne tient plus et ils disent allez stop.
Non mais alors, il va plus loin dans son raisonnement. Il doit s'arrêter avant alors.
C'est dur.
Au sommet de sa carrière. Parce que même en 2022, il n'est pas au sommet de sa carrière.
Et là, il en a une très belle.
Il décline sa carrière. Et là, il faut qu'il s'arrête le jour où il gagne le premier Roland-Garros, alors pendant qu'on y est.
Et là il a une très belle occasion
de partir en beauté.
Phase finale de la Coupe Davis, c'est pas fini.
Il est chez lui, équipe espagnole. Ils ont une grande chance de la gagner, qui joue ou qui ne joue pas.
Mais ça, c'est une vraie interrogation aussi, parce qu'il pourrait ne pas jouer, je pense, sous contrôle d'Eric Salio, évidemment.
En simple, en double,
certainement remplaçant.
Exactement, mais il est dans l'équipe, il est dans les 5. David Ferrer, le capitaine, l'a pris parce qu'il sait ce qu'il peut apporter.
Et s'il part
avec le saladier d'argent sous les yeux de Federer et Djokovic qui vont venir à Malaga pour sa dernière, et ben.
Ok.
Julien, j'ai juste une question.
Il faut qu'il joue Ferrer, et attention, Ferrer, il n'est pas là pour faire plaisir à.
Ferrer va avoir un gros problème.
Mais non, il ne va pas avoir un gros problème, vous savez. Non, Eric.
Ah si.
Ah non. Parce que Nadal. C'est un énorme champion et il est très humble. Et s'il sait qu'il n'est pas prêt.
Ah, merci Julien.
Et qu'il est moins bon, il le dira lui-même. Il dira à David Ferrer.
Pas de groupe, j'espère.
Et c'est pas comme certains dans d'autres sports.
Merci Julien.
Ok, t'as un doute pour le coup?
Mais on ne sait pas dans quel état il sera. Alors il va jouer la semaine prochaine une exhibition en Arabie.
Mais d'accord Eric, mais si lui il sent qu'il n'est pas bien, qu'il est moins bon qu'Alcaraz.
Je l'espère.
Il est moins bon que.
Mais je serais choqué qu'il soulève la Coupe Davis sans avoir foulé le court.
Bah pas moi.
Bon, Julien, moi j'ai une question.
Ta question est après,
Cyril. Je suis un grand fan de tennis, surtout sur terre battue. Roland Garros, pour moi, c'est quelque chose d'incontournable. Est-ce que tu n'aurais pas aimé qu'il l'annonce juste après sa défaite contre Zverev, qu'on puisse faire la fête avec lui? Alors, lui, effectivement, je sais ce que tu vas me répondre, que lui, c'est pas son style. D'accord. Ok. Sauf que.
Non, mais toi, il y a que la teuf qui t'intéresse.
Il faut penser aux fans aussi qui auraient voulu le célébrer, qui auraient voulu. Mais. Dire que c'est une légende, ce sera adapté, mais là directement sortir du cours,
ouais, mais tu t'accapares un peu le tournoi et c'est pas dans sa mentalité, alors que l'an prochain s'il y a un truc, j'imagine Eric, qui sera prévu autour de lui, ça sera fantastique et tout le monde pourra le célébrer.
Oui, mais ça se fait très souvent quand même que des joueurs annoncent pas annoncer sa retraite, annoncer au moins que c'était son dernier Roland Garros, pouvoir célébrer, parce que c'est sa maison.
Il en était pas sûr à l'époque.
On lui a demandé, la direction du tournoi lui a demandé.
Tout était prêt d'ailleurs.
Tout était prêt. Et lui a refusé ce que dit.
Il a dit non parce que je pense qu'au fond de lui, il ne savait pas.
Alors c'est en ça pour moi qu'il a raté un petit peu de
chance. Aux Jeux Olympiques.
J'ai une vision du sport qui est peut-être bisounours un peu. Mais ce que tu as dit tout à l'heure, ça me réconforte dans l'idée que j'avais de Nadal. À savoir que pour moi, il incarne l'humilité, la résilience. Ce qu'il fait alors qu'il est blessé, c'est de la résilience. C'est aussi un acte courageux de sportif que d'être résilient alors que tu étais au sommet et que tu continues à jouer. Il aime son sport, il aime le tennis. Et voilà pas qu'il y a les bisprois qui considèrent qu'il a raté sa carrière. Et toi, Fred,
c'est pas raté sa carrière.
Sa fin de carrière, pardon. Mais tu te rends compte de ce que tu dis, oh sacrilège.
Deux choses, tout à fait d'accord avec Pascal. Moi je trouve que sa fin de carrière est à l'image de ce qu'il est, c'est-à-dire c'est une fin de carrière de combattant, de passionné, et je trouve que ça sert finalement, c'est plus en raccord avec ce qu'il a été. On rappelle que c'était peut-être pas forcément au début le joueur qu'on estimait le plus doué, enfin on sait comment il a construit sa légende. Premier point, et deuxième point, on oubliera cette fin de carrière.
Ah mais ça, on oubliera.
On a oublié parce que j'ai lu que Borg était revenu en 91. On a tous l'image de Björn Borg qui arrête en pleine gloire à 26 ans. En fait, il est revenu, il a été battu par Henri Leconte à Monte-Carlo en 91. On a oublié que Pete Sampras, j'ai lu un article intéressant sur Eurosport, termine sur en gagnant l'US Open en 2002. On dit, c'est fantastique.
Bon, en fait, on essaie d'oublier que Michael Jordan est revenu aussi. On essaye tous de l'oublier parce que Nadal aussi,
mais bien sûr, qu'est-ce qui va rester de Nadal? Certes, sur les deux dernières années, on dira peut-être, et en plus, il était humble et combatif et il s'est battu jusqu'au bout.
Il a joué 23 matchs dans les deux dernières années.
Ouais, mais tout le reste, voilà.
Ben oui, mais encore une fois, je pense à Frédéric Salio qui était dépité, complètement abattu de le voir se faire autant dominer sur la fin. C'est un peu dommage.
On va juger la fin de carrière de Rafael Nadal sur l'état d'Eric Salio.
Les émotions d'Eric.
Fred, il perd sur le futur champion olympique aussi.
Évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu as vu, comment il s'est fait ramasser.
Oui, 6-5-4-0, c'est pas possible.
Fred, je crois que tu rames, Fred. J'ai l'impression que tu rames.
Toi, tu rames. Tu te trompes.
Cyril, juste en quoi je parlais de Roger Federer. Il y a eu le 6-0 aussi pour son dernier Wimbledon, hein, où il prend une bulle quand même, hein, dans son jardin. Évidemment, on l'a plutôt oublié. Oui, Cyril.
Non, je trouve que c'est une question qui est limite de la part des grandes gueules.
Mais on oubliera ce sujet aussi. Tu verras. Ton sujet, on l'oubliera.
C'est très limite.
Moi, je trouve que les réponses ont été peut-être un peu limites. Alors là, j'essaie de vous répondre de mon côté parce que c'est dommage que vous n'alliez pas justement sur ce que vous avez envie de garder d'un champion, et à un moment donné, quand il tire un petit peu trop sur la machine, bah en fait on n'a pas envie de le voir comme ça, on n'a pas envie de voir. Moi, quand je regarde un tournoi de golf et quand je vois Tiger Woods aujourd'hui, ça me fait de la peine. J'ai mal, il boitille. Il se retire des tournois, il termine 150e. Ça me fait pas plaisir, moi, personnellement.
Moi, ça me fait de la peine quand je vois des tournois des vétérans. J'aime pas les tournois des vieilles gloires, par exemple, à Roland Garros et tout. J'aime pas ça. Parce que je préfère. Alors, à chacun ses goûts, mais moi, je préfère revoir les grands matchs de McEnroe que les tournois des. Je n'aime pas ça. Là, il a tenté jusqu'au bout. Je pense qu'il s'est jamais considéré comme un vétéran sur les deux dernières années. Ouais, il a pas fait ça 10 ans. Il a essayé jusqu'au JO.
Honnêtement, quand tu voyais ces vidéos, je travaille, je reviendrai, et finalement, qu'il ne soit jamais revenu, est-ce que c'est pas un petit peu désolant quand même quand c'est une légende à ce point? Encore une fois, je suis un énorme fan de Rafael Nadal.
Il l'a fait avec sincérité,
Ça se voit, je suis d'accord, c'est vu, fan de Rafael Nadal.
Heureusement, tu n'es pas objectif, mais c'est ça être fan, être objectif sur la personne qu'on vénère.
Jérémy, il t'adore en plus, prends garde.
Oui, c'est vrai, en plus.
Prends garde, Pascal.
Attention, Pascal.
Jérémy nous appelle au 32-16. Bonjour, Jérémy.
Et bonjour à tous.
Est-ce que tu vas venir au secours de Fred, un peu seul sur ce débat, ou tu vas être contre lui? Est-ce qu'il a raté sa fin de carrière?
Je vais venir un peu au secours de Fred, j'ai l'impression qu'il en a besoin. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il a un peu raté sa fin de carrière, je dirais pas complètement, parce que comme le disait Pascal, l'image de Nadal, c'est un peu sa combativité, etc. Donc c'est ce qu'il a essayé. Mais quelque part, j'ai l'impression que sur les deux dernières années, il a un peu voulu partir à la course au titre au Grand Chelem avec Djoko, en gagnant son dernier Roland. Ça le relançait un peu dans cette voie-là, et a essayé de rester comme le plus grand du tennis avec le nombre de Grand Chelem. Et pas de bol, en fait, derrière, il s'est pété, et c'est Djoko qui a pris un peu cette place-là. Et donc c'est pour ça que sur la fin, je pense qu'il rate. Il aurait pu rester comme sur une victoire à Roland, et s'arrêter là comme le dieu de la terre battue et ce qui est son terrain. Il a voulu pousser un peu plus parce que quelque part il pouvait pas l'être derrière Djoko et Federer en termes de meilleur du tennis mondial. Et c'est un peu à ce moment-là où il a perdu le fil de l'histoire, je dirais.
Oui, et quelque part, est-ce qu'on n'aurait pas dit à ce moment-là, s'il avait arrêté en 2022, la polémique sur les injections, est-ce qu'on ne serait pas resté là-dessus, justement, sur sa fin de carrière? Mais ça, c'est un autre débat que je ne vous propose pas dans cette émission. Sinon, je vais me faire rabrouer par notre ami Pascal Duprat. Ouf. Merci, Jérémy, d'avoir composé le 32-16. Merci, Eric Salio. Triste semaine pour le tennis.
Parce qu'il aurait pu faire le 23e à Wimbledon, et effectivement, c'était...
C'est la course à l'échalote qu'il a perdu. Oui,
peut-être, ouais. Okay. Tes abdos.
Tu pars à Malaga ou pas?
On va faire une semaine à fond. On va suivre les derniers souffles de Rafa. On va partir avec Anthony et ça va être top parce que je pense que le monde du tennis sera au rendez-vous là-bas. Et l'histoire est belle parce qu'en 2000, il est porte-drapeau de l'équipe d'Espagne de Coupe Davis. C'était à Séville. Et 2024, donc il sera dans l'équipe. et je vais surveiller le mec qui portera le drapeau espagnol parce que ce sera peut-être
en
futur.
En tout cas, merci Eric de vous faire vivre des émotions.
Merci Pascal. Ouais.
À nul autre pareil. Bravo.
Merci.
Bravo. C'est Eric Salio, c'est pas Yannick Noah non plus.
Non, mais.
Merci Eric d'avoir été avec nous.
C'est la passion.
Quand même, Espagne-Pays-Bas, c'est pas gagné. Hein, pour les Espagnols, c'est dans un bon.
Se rendre compte qu'ils juraient 22 ans de choupe. Qui vient de battre Alcaraz à l'US. Ce serait pas un cadeau de la ligne. Hein.
Okay. On est obligé de le dire vite quand on le dit. On est obligé.
RMC, les grandes gueules du sport.
Ok Google, mais RMC.
Ok.
RMC est disponible sur toutes vos enceintes connectées. RMC, partout, tout le temps. Les grandes gueules d'RMC ont 20 ans.
Il y a 20 ans, en 2004, à la radio, on écoutait ça. Écoutez bien RMC.
Dès que vous entendez un de ces titres de l'année 2004 sur RMC,
envoyez GG par SMS au 732-16.
Les grandes gueules vous offrent jusqu'à 5000 euros.
Mettre aux enfants tout leur attirail, porter leur ski, les accompagner aux cours, sans oublier la crème solaire. Oh, moi, le ski, j'ai plus la force.
Même chez Bellambra.
Bon, allez, je vais bien essayer une dernière fois.
Ne profitez que du bon côté du ski avec nos clubs enfants de 4 mois à 17 ans. En ce moment, jusqu'à moins 20% sur votre séjour au ski sur bellambra.fr. Bellambra Club, au plus vrai des vacances.
Bonjour, c'est Apolline.
RMC, Apolline Matin.
Rendez-vous tout à l'heure pour Apolline Matin dès 6h30 sur RMC. Toujours de l'info, toujours du débat, l'interview, le face-à-face pour cette année qui promet d'être particulièrement importante du point de vue politique. La période demande plus que jamais, non seulement de l'information, de la clarté, mais aussi de vous entendre, vous, et vous aurez toujours la parole. Vous êtes chez vous au 32-16 dans Apolline Matin. Alors je vous dis à tout à l'heure, 6h30 sur RMC.
Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC, la punchline GG.
C'est formidable pour Paris d'abord, qui a des atouts pour des grands investisseurs qui sont évidents. Que la famille Arnaud ne soit pas insensible au football, au-delà de Paris, est une formidable nouvelle. Red Bull, c'est ce qui se fait de mieux pour amener des jeunes au niveau le plus haut. L'intérêt est évident, en particulier pour le Paris FC parce que c'est ce qui était reproché au PSG notamment. Red Bull, ce sont des gens bien, qui ont la rigueur allemande autrichienne et qui n'hésitent pas à investir des sommes conséquentes. J'aurais aimé avoir un club avec de tels actionnaires.
Ah, il aurait aimé, Jean-Michel Aulas. Notre débat, le rachat du Paris FC, la mayonnaise, est-elle sûre de prendre ? Oui ou non, Cyril Linette ?
Non.
Pascal Duprat ?
Oui.
Julia Beneteau ?
On n'est jamais sûr de rien dans la vie.
Ok, ça va Denis Charvet ?
Je dirais plutôt oui dans le
plutôt
futur
oui.
proche.
Ok, Fred Weiss.
Non.
Non. Le 32-16, évidemment, supporter du PSG, du Paris FC, si vous avez envie de réagir ou simplement amoureux du foot, et peut-être, pourquoi pas, de la capitale, de Paris. Pourquoi non, Cyril Linette ?
Alors d'abord, c'est une super nouvelle, parce qu'effectivement, on se plaint que les grandes forces économiques du pays ne sont pas dans le foot depuis des années, et là, on y vient, grâce notamment au travail de Pierre Ferracci, l'actuel président et propriétaire du Paris Football Club. Donc c'est une très bonne nouvelle. Après, est-ce que c'est sûr de prendre ? Non, parce que le sport à Paris, c'est très dur. Vous relancez Portez, vous mettez un peu d'argent, vous avez un sentiment d'appartenance qui tout de suite se crée, vous avez plein de monde et puis c'est parti, vous pouvez faire ça dans plein de villes. À Paris, il n'y a pas de sentiment d'appartenance, ça n'existe pas, c'est beaucoup trop disparate. Et des échecs sur le sport, il y en a eu des dizaines et des dizaines, le Matra Racing, le Stade Français aujourd'hui, Maguazini remplissait le Stade de France, le Stade Français à Jean Moins, c'est 10 000 personnes alors que c'est une bonne équipe, donc c'est très dur.
Non,
le PSG, même le PSG en ce moment, depuis qu'il n'y a plus Messi, Neymar et Mbappé, je vous assure, il y a quelques places vides au Parc des Princes. Il est facile de trouver des billets sur les plateformes de revente de billets, ce qui était absolument exclu. Impossible. Absolument exclu il y a encore un an. Le sport à Paris, c'est très dur. Donc, il faut évidemment être prudent. Après, c'est une super nouvelle. Il faut s'y prendre, je pense, pas à pas. Partir des fondamentaux du Paris Football Club, qui sont effectivement un peu minces, mais qui existent quand même. La formation, il y a des choses, une petite base de supporters. Et puis, petit à petit faire grandir cet ADN. Et surtout, à mon avis, de grâce, éviter les grands discours marketing de type « ça sera le club de la banlieue, ça sera le club des jeunes », parce que c'est ce qui notamment freine le PSG. Pour moi, le PSG, le côté « on va gagner la Ligue des Champions dans les 5 ans en arrivant », le côté « on veut des stars », maintenant le côté « on veut plus de stars », arrêtons de faire du marketing et de décréter des choses absolument incroyables, faisons un club de foot. Pas à pas. Et s'il faut un club de foot pas à pas, et comme il y a des gens de grande qualité autour de la table, ça peut marcher. Mais je pense qu'il faut beaucoup d'humilité et de patience.
J'y reviendrai sur cet argument parce qu'il faut quand même raconter une histoire. Et ça passe aussi par, eh bien, peut-être
mais
se détacher
chose, pas
du,
chose qui emprisonne, quoi,
du Paris Saint-Germain. Pascal Duprat.
En fait, je comprends pas, mais, Cyril, mais alors moi je suis pas parisien, c'est peut-être pour ça. Je suis un naïf provincial. Mais en fait, il y avait quand même une incongruité, c'est que Paris était le seul club en Europe, capitale, qui n'avait qu'un seul club de football. Donc là...
Sauf que c'est culturel d'ailleurs. C'est pas culturel, on est en train de créer une culture par rapport à ça. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer.
Culturel ou non, toujours est-il que quand vous avez un des fleurons de l'industrie française du luxe, en plus, qui rachète ce club et qui s'adosse Red Bull, qui a fait ses preuves dans le domaine du football, ben je me dis que tout ça, ça sent bon et que ça va marcher.
La question, c'est est-ce que c'est sûr de prendre ?
Ça va marcher, sûr de prendre, on ne sait jamais, mais je ne vois pas comment ça ne prendrait pas. Ils sont en Ligue 2. Ils sont pas en DH, ils sont en Ligue 2.
Ils sont leaders de Ligue 2.
Ils sont leaders de Ligue 2. Il y a un vivier phénoménal à Paris de jeunes joueurs. Paris peut pas tout squeezer. Ça peut être parce que, encore une fois, c'est un des atavismes de Red Bull de s'attacher à la jeunesse. Dans leurs clubs respectifs, ce sont toujours des jeunes qu'ils réussissent à mettre en avant. Donc je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Et vous me parlez de l'histoire. Bah, l'histoire, il faut juste la créer. Parce que le Paris Saint-Germain est pas si vieux que ça. Je me rappelle pas la date de création. 76. Mais c'est un jeune club, quoi qu'on en dise, par rapport à d'autres. Donc je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Et je vais même dire que ça, Paris Saint-Germain peut être un atout pour le Paris FC. Tout ce que fait mal le Paris Saint-Germain, ben Paris FC aurait intérêt à le faire bien.
Oui, c'était bon dans le storytelling. Ça, on est tous d'accord sur le fait que la chance est incroyable. Ouais. Et évidemment qu'on est ravis que ça arrive comme ça. En plus avec Red Bull, comme tu l'as dit, qui peut aider par rapport à ça. Sauf que ça serait méconnaître le sport que de se dire on peut réussir juste parce qu'on a de l'argent et qu'on a des idées. Non, il manque les supporters, le storytelling. Il faut expliquer comment on crée ce club, pourquoi, avec quelle base, comment on veut le faire. Il faut un stade. Le stade, pour l'instant, on est un petit peu, on ne sait pas exactement où ça va jouer. Pour l'instant, il y a quand même beaucoup d'inconnus. Et dans le sport, en général, il y a des inconnus. C'est facile de mettre de l'argent pour gagner des matchs, sauf que si c'était aussi simple, tout le monde mettrait beaucoup d'argent et gagnerait tout. C'est pas aussi simple que ça, le sport. Donc il y a tellement d'aléas qu'on n'arrive pas à maîtriser dans le sport que c'est impossible de dire que ça va fonctionner. Est-ce que s'il y avait un bateau et je devais choisir un bateau, je choisirais celui-là? Évidemment que oui, parce que les bases semblent très solides. Mais est-ce que c'est suffisant? Pour moi, non.
Je vous propose d'écouter, avant d'écouter l'avis de Julien, c'est Maxime Bossis que nous avons joint cette semaine, qui a participé à l'aventure du Matra Racing. Vous vous en souvenez, dans les années 90, Maxime Bossis le dit, il faut faire attention.
Paris ne doit pas s'inquiéter, ils ont déjà quand même pas mal de longueur d'avance, ils ont des moyens monumentaux et quelque part c'est bien aussi d'avoir deux clubs qui peuvent être adversaires dans la même ville et c'est plutôt quelque chose qui est positif pour les deux, mais je pense pas que le Paris Saint-Germain puisse s'inquiéter pour le moment du moins.
Voilà, Maxime Bossis n'a absolument pas répondu à ma question, le producteur sera viré de cette émission, c'est un autre extrait que vous allez vous faire passer, ne vous inquiétez pas, ce sera dans quelques instants. Ah. Julien Benneteau.
Pour reprendre la dernière phrase de Fred, oui, c'est un bateau qui semble avoir des bases solides. Je pense que la famille Arnaud va y aller étape par étape. Va pas annoncer qu'ils veulent concurrencer le PSG tout de suite. Il faut arriver à monter en Ligue 1 très rapidement. Donc là, ils sont leaders. Je pense qu'ils ont en tête de quand même de monter. Mais c'est les aléas du sport en France et du sport européen.
Est-ce que là déjà, elle est là, la clé ? Monter très rapidement, les
oui,
gars.
Oui, parce que forcément, après, pour remplir un stade, pour remplir un stade,
s'établir en Ligue 1, pour pouvoir avoir des projets, des ambitions, bien sûr.
Exactement, attirer des joueurs, construire une équipe, c'est pour moi, c'est très important. Mais je pense que le PSG va leur servir de boussole pour pas faire la même chose. Ça, c'est primordial. Et aussi, le stade du PSG va leur servir de boussole. Je pense qu'ils sont tapis dans l'ombre avec la mairie de Paris et qu'ils attendent le moindre mouvement des Qataris par rapport à la mairie de Paris, par rapport au Parc des Princes. Et là, ils ont un coup à jouer. Je pense qu'ils ont un vrai coup à jouer.
C'est quoi le plus important aujourd'hui à faire quand on reprend un club comme ça qui part ? J'ai pas envie de dire de rien parce que ce serait.
Non, mais c'est non, le plus important, c'est de ne pas faire ça justement. Il y a un président qui a pris le club en 2012. Ça fait 4-5 ans qu'ils échouent de très peu dans les barrages pour monter. C'est un bon club aujourd'hui.
Il faut garder l'histoire.
Qui
n'a pas un appui populaire parce que c'est Paris et que c'est dur de trouver des gens qui vont. Ben voilà, le Paris Basketball est en train d'y arriver depuis quelques années.
C'est fantastique. Très nouveau.
Il y a eu tellement d'échecs sur le basket à Paris avant d'y arriver. Donc, c'est possible, mais à Paris, c'est très difficile. Donc, je pense que. Mais LVMH est suffisamment intelligent pour le comprendre. Pierre Ferracci va rester président du club pendant 2-3 ans. La première chose à faire, c'est de s'appuyer sur les ressources existantes du club et de les aider petit à petit.
Ils ont déjà deux choses très importantes. Enfin, très importantes. Comme quoi, c'est pas un club qui part de rien. Ils ont un centre d'entraînement qui paraît très, très.
Ils ont construit,
construit qui est très
à Orly.
Ils ont une section féminine qui est très compétitive. Alors cette année, je crois qu'en Ligue des Champions, elles se sont un petit peu ramassées comme celle du PSG. Mais ils sont en avance aussi, comme les grands clubs d'Europe. Et Pascal a dit quelque chose qui est très juste. On parle de la famille Arnaud, parce que c'est la famille Arnaud et pas le groupe LVMH qui va investir. Mais ils ont une caution sportive, ou en tout cas, ils vont s'appuyer sur une expertise sportive avec Red Bull. Et ça, c'est très intelligent de leur part. Contrairement aux Qataris.
Ils ne vont pas comme ça.
On ne peut pas gérer ça. Enfin, les Qataris, à côté, ils avaient Ancelotti, ils ont décidé qu'il n'était pas assez bon pour eux. Vous voyez la différence ? On va garder Pierre Ferracci pendant 2 ou 3 ans. On s'appuie avec Red Bull. C'est quand même pas du tout la même logique.
Peut-être, mais le Paris Saint-Germain a réussi à construire une histoire qui était évidemment un peu fake, mais qui est arrivée. Bon, déjà, le Paris Saint-Germain avait une autre histoire quand il a été repris par les Qataris avec le Paris FC. Mais ils sont arrivés avec une idée. C'était, on montre les muscles, on envoie beaucoup d'argent, on envoie des stars. Et je dis pas que le Paris FC doit faire la même chose, mais est-ce qu'à un moment donné, les supporters en attente, non mais il faut pas quelque chose de fort, il faut pas annoncer quelque chose qui fasse prendre cette mayonnaise.
Moi je crois pas. Je pense que ça.
Afficher sa cohérence.
Je pense que ça t'emprisonne de partir dans des discours marketing. Ouais. Du reste, le PSG le change de discours tous les 4 ans. Donc je pense que ça t'emprisonne. Et d'autre part, il faut pas non plus se positionner comme anti PSG parce que tout ce qui est anti sur le, il faut créer du désir, pas du désir par opposition aux autres. Pas
commencer à dire
on sera l'anti-PSG, ça ne marchera pas. Non, il va falloir trouver quelque chose, effectivement, petit à petit. Mais il faut d'abord construire un bon club de foot avec, effectivement.
Mais c'est déjà le cas, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est important de dire. Ils sont en Ligue 2, ils sont leaders, ils ont un centre d'entraînement qui est flambant neuf. Ils ont pris le train du foot féminin et ma foi fort bien.
Pascal, je te coupe. Donc, juste, toi, tu as connu Evian Thonon-Gaillard quand même. C'est-à-dire que tu as apporté une identité à un club
avec un fleuron de l'industrie qui nous a fait énormément progresser et qui nous a fait franchir des caps.
Mais comment on construit l'identité ? C'est avec les résultats sportifs.
L'identité, c'était simple. J'avais pas de concurrent, donc l'identité, c'était presque clanique. C'est-à-dire qu'un Savoyard se devait d'être derrière notre club. C'est pour cette raison qu'on affichait aussi nos couleurs, notre croix de Savoie sur la bannière. Donc c'était plus facile à faire, j'imagine.
Ce que tu peux pas faire à Paris,
encore une fois, je suis connaisseur et amateur de football, mais il me semble, par exemple, que le Red Star est plus populaire que le Paris FC.
Bien sûr,
c'est une erreur, mais j'ai l'impression que est davantage ancré dans l'histoire que ne l'est le Paris FC. Ouais. Mais tout ceci, malheureusement, pour le Red Star, pour l'instant, ça va sauter parce que le Paris FC, là, est adossé à des mastodontes. Et le pognon
dans le sport, c'est important.
Le storytelling, c'est de se dire qu'un jour, on aura des derbies à l'instar de ce qui se fait à Manchester, on aura des derbies à Paris. C'est très bien pour tout le monde.
L'histoire. Dans un premier temps en Ligue 1 au stade Jean Bouin, le match du dimanche après-midi ou du samedi 17h du Paris FC avec un maillot sympa, Red Bull, des jeunes, une identité
familiale.
L'identité visuelle va être très importante aussi.
Bien sûr, un truc plus familial, un truc plus sympa où au PSG on attend des promesses, ça se casse la gueule en Ligue des Champions, etc. Et je pense qu'ils vont se construire petit à petit là-dessus.
Je vous adore parce que vous me dites qu'il ne faut pas se construire contre le Paris Saint-Germain et pourtant vous me donnez à chaque chaque fois des arguments pour me dire attention, il faut surtout pas faire.
C'est sûr que s'ils arrivent avec des sacs de sport Vuitton, ça va marquer mal. Ok, mais ils sont suffisamment intelligents. Ouais, ils vont construire leur club, leur fête.
Proche du peuple, comme les Évian Tonon Gaillard.
Absolument.
On a bien compris, mon cher Pascal.
Il faut que les Parisiens mordent et ils vont mordre à cela.
RMC, les grandes gueules du sport. Si un jour vous ne captez pas RMC, pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
Bonjour, c'est Charles Magnin sur RMC.
RMC, Charles Matin.
On se retrouve tout à l'heure dès 5h en direct pour Charles Matin. Toute l'info, tous les sujets de votre quotidien avec toute la bande. Géraldine Demory, Manu Le Chypre, Amélie Rosic, Anthony Morel et vous, à tout moment, au 32-16. On se réveille tous ensemble pour toute l'actu et votre dose de bonne humeur. Rendez-vous dès 5h sur RMC.
En 91, les échos évoquaient déjà la voiture électrique pour tout le monde. En 97, les échos vous annonçaient déjà l'émergence d'Amazon. En 2018, on vous parlait déjà de l'impact de l'intelligence artificielle. Et si vous lisiez l'avenir dans les articles d'aujourd'hui ? Les Échos, prenez un temps d'avance. Abonnez-vous dès maintenant.
Dimanche 3 novembre, rendez-vous au pied de la Tour Eiffel pour une course mythique en plein cœur de Paris avec RMC. Inscrivez votre équipe au Magnifique Eden de Paris et parcourez la distance du marathon.